Alors, l'infériorité de la femme, elle se manifeste essentiellement à travers son statut juridique et social. L'islam impose en principe le mariage. Donc la femme, son état normal et souhaitable, c'est donc de se marier. C'est vrai que l'islam désapprouve le célibat. Si le célibat est voulu, il est contre nature, il correspond à une désobéissance à Dieu. S'il est subi, il peut être considéré comme le signe d'une malédiction divine. Et l'islam ignore le célibat consacré. Dans l'islam, pour l'homme comme pour la femme d'ailleurs, on ne se donne pas à Dieu, on ne fait pas des vœux religieux. C'est pour ça les personnes qui ont des fonctions dans la religion, je préfère dire à leur sujet que ce sont des hommes de religion et non pas des religieux. Le mot religieux, nous avons eu ce matin le père Carme, c'est un religieux, il se donne à Dieu avec les trois vœux, obéissance, pauvreté et chasteté. Il se donne complètement à Dieu, corps et âme. Dans l'islam, ça n'existe pas. Il n'y a pas de consécration à Dieu. Et les hommes qui sont responsables de la religion sont en principe mariés. D'ailleurs, au début, je vous ai dit, je crois, que quand le Coran montre que Jésus n'a pas été marié, enfin Jésus Aïssa, et que lorsqu'il reviendra à la fin des temps, il se mariera. Hein, je vous ai dit ça, je crois. Hein. Alors, tout ça repose sur une phrase attribuée à Mahomet. Mahomet, dans la Sunna, aurait dit, enfin, ce qu'on trouve dans la Sunna, aurait dit, le mariage est la moitié de la religion. Le mariage est la moitié de la religion. Alors, par ces mots, Mahomet a fait du mariage un devoir religieux, approprié à la religion, mais qu'il ne faut pas confondre avec un sacrement. Comme je vous l'ai dit, je le redis, il n'y a pas de sacrement dans l'islam. Le mariage musulman est un contrat. Il se présente comme un contrat, donc un acte juridique. Encore une fois, on a un exemple de prédominance de la loi dans l'islam. Alors, il y a une définition qui est donnée. C'est que le mariage est un contrat qui rend licite, légal si vous voulez, l'acte sexuel entre hommes et femmes. Sa dimension juridique est primordiale. Alors c'est vrai que normalement, enfin, il n'est pas requis que le mariage soit célébré dans une mosquée. De plus en plus, les musulmans ajoutent à la cérémonie devant un notaire où on signe le contrat, ils ajoutent aussi un temps de prière à la mosquée. Ça c'est assez nouveau, c'est récent dans la vie des musulmans. On peut penser que c'est aussi par imitation de la pratique chrétienne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est donc la priorité du contrat. Un contrat, donc, on signe devant un notaire. Alors, quelle est la part de liberté accordée à la femme dans la conclusion du mariage? C'est-à-dire le consentement. Normalement, la femme, elle est vue dans l'islam comme une mineure à vie. Même si elle a atteint l'âge adulte, elle est toujours mineure. Donc elle doit être placée sous la tutelle d'un tuteur. Et c'est valable pour le mariage. Ce n'est pas elle qui donne son consentement, c'est le tuteur qui dit à sa place le consentement de l'épouse. Alors le tuteur, ça peut être, c'est un tuteur légal, donc ça peut être son père, bien sûr, mais aussi son frère, son oncle, son grand-père, enfin... Et même si elle est veuve, par exemple, qu'elle se remarie, ça peut être son fils aîné qui lui sert de tuteur. Ou alors, un étranger à la famille, quand il n'y a pas d'homme proche, en mesure de remplir ce rôle-là. Alors, heureusement, beaucoup de législations ont atténué ce principe de la tutelle légale et consentent à laisser à la femme une certaine liberté dans le domaine du consentement. Mais ce n'est pas général. Vous voyez, par exemple, en Algérie, il y a eu une réforme du code de la famille en 1984, alors que la tutelle légale avait été abolie auparavant, elle a été rétablie par ce code de 1984. L'âge légal du mariage pour la femme varie entre 15 et 18 ans, sauf, je vous l'ai dit hier, en Iran, où depuis la révolution, l'âge minimum a été ramené à 9 ans. Oui, je voulais dire. Pour imiter Mahomet qui a épousé Aïcha alors qu'elle avait 9 ans. Donc en islam, on se marie pour obéir à Dieu, pour se soumettre à sa volonté. Ça, c'est très important. Dans l'islam, il n'y a pas la notion de conjugalité. La notion de conjugalité qui caractérise le mariage chrétien, elle découle directement de l'alliance de Dieu avec l'humanité. On a là, avec le mariage chrétien, une application pratique, concrète, de cette merveilleuse réalité de l'alliance. Donc il n'y a pas la notion de conjugalité. Comme je vous l'ai dit, c'est un contrat. En fait, on ne bâtit pas un projet ensemble. Mais bien sûr, la tendresse est recommandée. Il est tout à fait normal que les époux aient des sentiments l'un envers l'autre, bien que ce ne soit pas obligatoire, parce qu'il y a quand même, on le voit souvent, même chez nous, des jeunes filles qui sont contraintes d'épouser tel mari, sans leur consentement, puisque c'est le tuteur qui se prononce à leur place. J'ai l'exemple de plusieurs jeunes filles musulmanes en France qui, parfois, quand elles atteignent l'âge de leur mariage, leur famille leur dit « on va passer les vacances au pays d'origine, en Algérie, au Maroc, etc. » Oui, mais elles craignent que ça soit qu'il y ait l'arrière-pensée, le projet de les marier de force, vous voyez. Et voilà. Alors donc la tendresse est requise entre les deux, mais n'oubliez pas cette notion admirable de la conjugalité propre au mariage chrétien. Je pense qu'on n'en prend pas suffisamment conscience dans nos milieux. Et par ailleurs, l'homme domine la femme dans le mariage. Il domine la femme et il a même le droit de la châtier. Voyez ce que dit le Coran. Admonesté, celle dont vous craignez l'infidélité, celle au pluriel, parce qu'on va parler de la polygamie, reléguez-les dans des chambres à part et frappez-les. Mais ne leur cherchez plus querelle si elles vous obéissent. Sourate 4, versets 34 à 38. Alors, c'est terrible ça, bien sûr. Heureusement, on est loin d'une pratique généralisée de ce genre de comportement, mais je me rappelle, il y a quelques années, dans la région lyonnaise, à Vénissieux exactement, il y avait un imam, l'imam Bouziane. Il a, dans une prédication à la mosquée, il a dit aux hommes qu'ils avaient le droit de battre leurs femmes. Et la presse, c'est... Ah oui, c'est ça. Alors, il y a eu un tollé. Dans la grande presse, on a dit, mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi parle-t-il comme ça? Mais personne n'est allé voir l'enseignement du Coran. Il fallait regarder si l'imam Bouziane pouvait justifier sa parole. Alors, comme je voyais ça, donc j'ai fait un article en me référant donc à ce que dit le Coran à ce sujet. Alors, l'imam Bouziane a été expulsé de France, parce qu'évidemment, c'est contraire à la loi française de l'autorisation de battre sa femme. Mais il est revenu quelque temps après. En fait, l'épouse doit se tenir en permanence à la disposition de son époux, selon ce verset. Vos femmes sont pour vous un champ de labour, allez à vos champs comme vous le voulez. Ne riez pas trop, vous savez, ne riez pas trop. Sourate 2, verset 223. Dans la conception musulmane, le plaisir sexuel n'est pas désapprouvé, au contraire, il est même encouragé et exalté, et la femme, là, elle y a droit aussi, comme le mari. Le plaisir sexuel, comme tous les plaisirs, comme tout ce qui enrichit l'homme, ça se rattache à ce que la remarque que je vous ai faite concernant le succès dans l'islam, l'importance du succès. Et en fait, c'est vrai, on a des récits aussi terribles qui ont été publiés en France ces dernières années, de femmes musulmanes qui ont échappé, qui ont quitté leur pays, qui ont pu s'échapper, qui ont même quitté leur foyer, et qui racontent qu'elles ont été violées par leur mari. Elles doivent être à la disposition du mari. Bon, heureusement, tout n'est pas comme ça, bien sûr. Mais le drame, c'est que le Coran cautionne ce genre de pratique. Je vous ai dit, allez à vos champs de labour comme vous le voudrez, sourate 2, verset 223. Et en définitive, la femme dans l'islam, elle n'est pleinement considérée que lorsqu'elle est mère. Et donc là, vraiment, c'est ce statut-là qui lui confère le plus grand respect. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mahomet aurait dit que le paradis est sous le pied des mères. Et le Coran insiste beaucoup sur le respect dû non seulement aux mères, mais aux parents aussi, en raison des sacrifices qu'ils ont consentis pour avoir des enfants. Le mariage a une autre fonction, outre le fait de légaliser l'acte sexuel. Son autre fonction, c'est de participer à l'accroissement de la communauté musulmane, de l'Oumma. C'est pourquoi j'aime à dire que l'enfantement des femmes musulmanes, c'est sa manière à elles de contribuer au djihad. On parlera du djihad. Mais le djihad, on peut dire déjà maintenant, c'est l'effort pour, littéralement, djihad veut dire faire effort sur la voie de Dieu. Donc, pardon, pour l'expansion de l'islam. Donc, la femme, en général, ne porte pas les armes. Elle participe au djihad à sa manière, en donnant à l'Oumma le plus grand nombre d'enfants et si possible de garçons.